monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Morgan Guiriac et Abdourahman Dia en direct de la capitale américaine, mardi 15 janvier 2019. Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30, temps universel.
C'est une édition spéciale sur l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La CPI a ordonné la libération de l'ancien président ivoirien et de l'ancien ministre de la Jeunesse, incarcéré depuis la fin de la crise post-électorale de 2010-2011.
Vraiment, je suis dans la joie, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Quoi. Je suis contente. Demain, j'attends son arrivée.
On est très fiers. Les Ivoiriens sont très contents. Et là, c'est la joie totale.
Nous y consacrerons dans une page spéciale avec les réactions des Ivoiriens, des personnalités politiques, mais aussi le point de vue de la société civile et des victimes de la crise post-électorale.
Et sur le reste de l'actualité, nous aurons les derniers développements sur l'attaque contre un complexe hôtelier à Nairobi revendiqué par Al-Shabaab.
Également dans Le Monde aujourd'hui, la Cour constitutionnelle en RDC a commencé l'examen du recours de Martin Fayoulou sur les résultats de la présidentielle.
Les réactions à Libreville après le retour du président Ali Bongo au Gabon.
Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale, la CPI, a ordonné ce mardi l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Les deux hommes étaient poursuivis pour leur responsabilité présumée dans les crimes commis lors de la crise post-électorale de 2010 et 2011. Le point avec Eric Maniarakiza.
Le juge président Kuno Talfusser a déclaré que l'accusation n'a pas fourni la preuve de la charge conformément aux critères requis par la justice internationale. Il a ainsi ordonné la mise en liberté immédiate des deux accusés. Une décision surprenante, a dit maître Jean-Pierre Mignard, rappelant que 14 demandes de mise en liberté ont été successivement refusées. De son côté, l'avocat principal de la défense, Emmanuel Altit, s'est félicité de l'acquittement, parlant d'une victoire de la justice. Messieurs Gbagbo et Blé Goudé étaient accusés de crimes contre l'humanité. Le procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a regretté la décision des juges qu'elle a qualifiée de décevante et inattendue. M. Gbagbo, 63 ans, et M. Blé Goudé, 47 ans, vont toutefois passer au moins une nuit dans leur cellule du centre de détention de La Haye. Fatou Bensouda peut encore contester leur mise en liberté lors d'une audience prévue demain mercredi à 9h temps universel. Elle aura également la possibilité de faire appel de la décision du juge.
Voilà, donc en termes de réaction, notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, s'est rendu dans le quartier populaire de Yopougon. Il a recueilli quelques réactions des partisans de Laurent Gbagbo, satisfaits de sa libération.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé a quitté il y a longtemps que les partisans de l'ancien président ivoirien attendaient cette information. À Yopougon, commune considérée comme le fief du Front Populaire Ivoirien, le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, l'émotion et la joie étaient grandes ce mardi.
Vraiment, je suis dans la joie, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Quoi. Je suis contente. Demain, j'attends son arrivée.
On est très fiers. Les Ivoiriens sont très contents. Et là, c'est la joie totale. Gbagbo Laurent, c'est notre Dieu.
Écoute, c'est un sentiment de joie qui nous anime. Parce qu'avec Gbagbo en Côte d'Ivoire, je crois que tous les leaders en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va se réconcilier. Et c'est ça qui est le plus important. Donc nous sommes heureux que Blé Goudé et Gbagbo Laurent soient libérés pour le bien-être des Ivoiriens, pour la paix en Côte d'Ivoire.
Je suis très heureux pour la libération de mon frère et de mon père. Donc raison pour laquelle nous sommes assis. Nous sommes en joie pour l'instant.
Les partisans de l'ancien président ivoirien veulent croire que cette fois sera la bonne, que la CPI confirmera en appel l'acquittement qui vient d'être prononcé. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Et pour les réactions à Boaké, ancien fief des Forces Nouvelles, l'ancienne rébellion qui avait combattu Laurent Gbagbo, le point avec Siriki Barrault, notre correspondant.
Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé retrouvent la liberté après plusieurs années de détention. Si ailleurs en Côte d'Ivoire, leurs partisans ont laissé exploser leur joie, cela n'a pas été le cas à Boaké. Bien au contraire, c'est un peu comme si l'on redoutait cette nouvelle. Doumbia Soumaïla, le président de la plateforme de la société civile, estime que la décision rendue par les juges de la CPI favorisera la réconciliation entre les Ivoiriens.
En tant qu'organisation de la société civile et militant des droits de l'homme, nous respectons d'abord les institutions juridiques et la libération de M. Gbagbo viendra en appui pour apporter un plus sur la question de la réconciliation.
Pour les parents des victimes de la crise post-électorale de 2011, cette décision est une injustice.
Je ne suis pas content parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Ça ne peut pas envoyer la paix parce qu'ils ont toujours la haine sous leur cœur contre les douleurs.
Si certains redoutent le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire, pour d'autres, cela pourra apaiser les tensions et contribuer au retour définitif de la paix.
Si Laurent Gbagbo vient, c'est pour la paix, on est d'accord. Mais si c'est pour venir envoyer la haine, cette guerre encore, le tribalisme en Côte d'Ivoire, n'a pas la peine qu'on le libère. Et je demande à Blé Goudé qu'il vient avec la paix, avec l'humilité, que son départ à CPI lui donne beaucoup de leçons et beaucoup de sagesse.
Cyril Kibaro, Boaké, pour VOA Afrique.
Le journaliste César Etou, mis à l'écart du quotidien pro-Gbagbo, Notre Voix, a depuis créé son propre journal, La Voix Originale. Il est resté fidèle parmi les fidèles de Laurent Gbagbo. Nathalie Barge a recueilli sa réaction tout à l'heure à Abidjan.
Nous sommes très heureux d'avoir contribué à nourrir l'espoir que la vérité finira par éclater un jour en faveur de Laurent Gbagbo, de Michel Blé Goudé et tous les patriotes en lutte pour la souveraineté du pays en Côte d'Ivoire. Vous savez, en 2011, il fallait avoir beaucoup de courage et beaucoup de discernement pour continuer à croire en la libération du président Laurent Gbagbo. Écoutez, parce que nous avons toujours écrit que le dossier était vite. Après 7 années donc, le verdict vient de tomber. Nous sommes très heureux de cette victoire.
Pensez-vous que cet acquittement va permettre un début de réconciliation?
C'était le seul élément qui manquait pour qu'il y ait la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et cet élément-là, la Cour pénale internationale vient de nous le donner. Oui, la réconciliation va se faire. Quand il reviendra au pays, vous allez voir ce qui va se passer. D'ailleurs, par la voix de Cissé Bakongo, le RDR vient de déclarer qu'eux aussi ils sont contents que Laurent Gbagbo et Blé Goudé soient acquittés. Vous voyez, donc la joie est en train d'être semée partout en Côte d'Ivoire, y compris pour ceux qui voulaient voir Laurent Gbagbo complètement écarté de toute activité politique chez nous.
Alors selon vous, est-ce que cela va permettre de réconcilier certains membres du FPI ou au contraire d'accentuer la crise au sein même du parti?
Mais ceux qui avaient cru que c'en était fini pour Laurent Gbagbo et qui avaient essayé de tourner la page Gbagbo doivent commencer à s'apercevoir qu'ils ont emprunté un chemin sans issue. Ce sera donc à eux de savoir prendre désormais la bonne décision parce que l'homme qu'ils ont jeté au genou est en train de revenir en Côte d'Ivoire. Ça, ils doivent le comprendre. Quant aux autres qui sont restés des Gbagbo ou rien, comme on les appelle ici, ils continuent leur lutte pour la souveraineté du pays, pour la liberté, pour la démocratie derrière le président Laurent Gbagbo qui va venir.
Vous avez été limogé du journal Notre Voix par Pascal Affine-Guessan et vous avez donc depuis votre propre journal La Voix Originale. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cette période?
Après le transfert du président Laurent Gbagbo, M. Affine-Guessan et ses collaborateurs ont jugé que ça m'était fini du président Gbagbo. Ils m'ont donc demandé de ne même plus le mettre à la une. En une journée, nous avons fait 2 paritions de ce journal. Une parition que moi j'ai mis sur le marché en tant que directeur de publication et une autre parition que les collaborateurs de M. Affi ont mis sur Internet. Ça, c'est du passé. On ne parle plus de ça. Nous sommes à La Voix Originale. Nous continuons de faire notre travail et c'est ça qui est notre souci.
C'était César Etour, le directeur du journal La Voix Originale.
Enfin, Raïssa Girondin a recueilli la réaction de Marie-Evelyne Pétrus-Barry, directrice régionale d'Amnesty International à Dakar.
Les victimes ne seront pas du tout en mesure de demander justice et encore moins de demander réparation. Les violences post-électorales en 2010-2011 de la Côte d'Ivoire ont fait plus de 3000 morts. Et donc, c'est encore un pas vers l'impunité.
D'un camp et de l'autre.
C'est qu'en fait, des crimes ont été commis des deux côtés du conflit et que les partisans de Ouattara ont aussi commis de graves crimes avec beaucoup de disparitions, de détentions arbitraires, de torture, de traitements dégradants et inhumains, et qui sont restés impunis. Il est important qu'il n'y ait pas une justice des vainqueurs, et que toutes les victimes, quel que soit le bord des perpétrateurs, de ceux qui perpétuent les crimes ou des victimes, puissent demander justice.
Et pour vous, quelle est l'alternative de la CPI pour rendre justice à ces victimes?
Je pense qu'on devrait utiliser la CPI en dernier ressort. On devrait faire tous les efforts possibles pour organiser les procès dans les pays où les violations des droits de l'homme, où les graves crimes qui engendrent évidemment de graves violations des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité ont été commis. Pour que la Cour pénale soit plus efficace, il faudrait qu'elle ne soit pas pressée, qu'elle ne soit pas poussée ni influencée par des intérêts qui ne sont pas forcément les siens, qui mettent la pression sur elle, des intérêts internationaux, des intérêts politiques, des intérêts économiques, et qu'elle prenne le temps de rassembler les évidences, de parler aux victimes, d'interroger les victimes, de tous bords, de décider si les personnes ayant commis les crimes sont d'un bord ou d'un autre, et dans ce cas-là, si elles sont des deux bords, de juger les deux bords, ça la rendrait plus crédible et ça lui permettrait de condamner quand de graves crimes ont été commis.
Mais est-ce que vous pensez que cette libération, c'est un pas vers la réconciliation dans le pays?
Je pense que tant qu'il y a impunité, qu'on n'a pas géré les questions de justice passées, il est très difficile d'aller vers la réconciliation. Qu'est-ce qui se passe aux prochaines élections s'il y a une résurgence de la violence? On recommence et on recommet les mêmes crimes en se disant qu'ils resteront impunis. Donc non, je pense que l'impunité ne peut jamais être une solution, même si elle peut aider à une réconciliation apparente, mais ça ne peut pas être profond.
Voilà, c'était Marie-Evelyne Petrus-Barry, directrice régionale Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty International, basée à Dakar. Et au chapitre des réactions toujours, l'ex-première dame Simone Gbagbo a invité les Ivoiriens à se réconcilier autour de la nation au cours d'une conférence de presse diffusée sur sa page Facebook, que les ethnies et les différents groupes religieux de la Côte d'Ivoire se retrouvent et se réconcilient autour de la vérité, de la justice et de la nation, à laissant entendre Madame Gbagbo, toute détendue et émue de la décision de la CPI. Je félicite les deux groupes de la défense qui ont peiné pour faire triompher la vérité. Je les remercie et appelle la grâce de Dieu sur leur vie, a-t-elle ajouté, estimant que la flamme de la libération de toute la Côte d'Ivoire doit demeurer toujours allumée.
Et au chapitre des réactions, cette fois-ci dans la sous-région, notre correspondant au Burkina Faso, Issa Napon, a tendu son micro à quelques habitants de Ouagadougou. On écoute.
La libération de M. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, ça revient en tout cas à confirmer beaucoup de doutes que certaines personnes avaient. Parce que beaucoup de personnes avaient estimé en son temps qu'on ne pouvait pas reprocher à M. Laurent Gbagbo d'avoir tué à lui seul près de 3000 personnes. Et que par conséquent, si jugement devait avoir lieu, cela devrait se faire en la présence des deux protagonistes. Et en l'occurrence, il n'y avait que Laurent Gbagbo seulement avec son ministre Blé Goudé. Donc bon, la Cour pénale a eu du mal à regrouper les preuves assez solides pour pouvoir en tout cas maintenir les charges contre lui. Et son retour au pays, en tout cas, ça va redynamiser le monde politique ivoirien qui était presque en ébullition actuellement, parce que bon, vous voyez que les deux grands partis ne se sont pas trop compris sur la réunification. Donc bon, l'arrivée de Laurent Gbagbo pourra au moins rééquilibrer les choses.
Laurent Gbagbo, on l'a fait la force, sinon il mérite son libération.
S'il est libéré, c'est bien. Voilà, sûrement que il n'y aura plus de dégâts comme ce qu'on a vécu des années passées.
C'est bien de le libérer parce que le pardon est une grande chose.
S'ils n'ont pas de preuves, je crois qu'il a le droit d'être libéré. Il doit retrouver sa liberté. En tout cas, je pense qu'on ne devrait pas le laisser retourner en Côte d'Ivoire. Je pense que ça pourrait entraîner des conflits encore dans ce pays.
Voilà quelques habitants de Ouagadougou au micro d'Issa Napon.
Voilà pour cette page spéciale sur la RDC, la victoire et l'annonce de la CPI ordonnant la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. À suivre, un tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde et nos magazines.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bienvenue dans cette deuxième partie du monde aujourd'hui. Abdourahmane Dia, Morgane Guerriec, toujours en votre compagnie. Et tout de suite, le journal.
Ce soir, Al-Shabaab revendique une attaque perpétrée visant un complexe de Nairobi regroupant un hôtel et des bureaux. Tout a commencé par une forte explosion suivie pendant plus d'une heure de tirs nourris. Bagassikoura.
L'explosion s'est produite dans ce complexe appelé Dusit Ditu, situé dans un quartier de la capitale kényane. La détonation a été entendue à plus de 5 km des lieux. Les médias kényans parlent de plusieurs morts, mais aucun bilan officiel n'est encore disponible. Les Shebab, dans un court message posté par leur agence de presse, ont revendiqué la responsabilité de cette attaque, dont le modus operandi ressemble à celui qu'ils utilisent fréquemment. La brigade antiterroriste kényane était sur place. Le Kenya a déjà été la cible d'attentats djihadistes de grande ampleur. Le 7 août 1998, une attaque revendiquée par Al-Qaïda contre l'ambassade américaine à Nairobi avait fait 213 morts et 5000 blessés. Le 21 septembre 2013, un commando islamiste avait pris d'assaut le centre commercial Westgate à Nairobi avant d'être éliminé après 80 heures de siège, faisant 67 morts.
En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a commencé à examiner le recours de Martin Fayulu qui demande une invalidation des résultats de l'élection présidentielle proclamant Félix Tshisekedi vainqueur. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Dans une salle pleine à craquer, Maître Toussaint Ekombé, avocat de Martin Fayulu, a appelé la Cour à annuler les résultats provisoires proclamés par la CENI. Il a affirmé que M. Fayulu est le véritable vainqueur de l'élection présidentielle avec un peu plus de 8,5 millions des voix selon la compilation des résultats établis par son camp. Maître Ekombé a demandé à la Cour d'ordonner un recomptage des voix. En face, les avocats de Félix Tshisekedi et de la CENI ont au contraire demandé à la plus haute juridiction de confirmer les résultats. M. Fayulu conteste les résultats provisoires publiés par la CENI, proclamant M. Tshisekedi vainqueur de la présidentielle avec 38,57% des voix et le créditant de 34,8% des suffrages. Il dénonce un putsch électoral et revendique la victoire avec 61% des voix. La Cour constitutionnelle a 8 jours pour rendre sa décision, soit jusqu'au 18 janvier. L'Église catholique, à travers la CENCO, a aussi mis en doute le résultat. Le Conseil de sécurité a appelé, je cite, à préserver le climat généralement pacifique des élections.
Au Nigeria, les combattants de Boko Haram ont mené une nouvelle attaque contre une base militaire dans le nord-est du pays, émettant le feu à des abris provisoires de déplacés. Au moins 7 personnes ont été tuées dans cette attaque, selon des sources militaires et humanitaires. L'attaque de Ran, à environ 175 km au nord de Maïdougouri, la capitale de l'état du Borno, a commencé lundi en fin d'après-midi, forçant les civils, en grande majorité des déplacés, à fuir. La base a été incendiée par des terroristes qui ont emporté les armes et des véhicules laissés par les soldats lorsqu'ils ont battu en retraite, selon une source militaire à Maïdougouri.
En tournée dans la région du Sahel, le président du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Moore, était au Niger. Il est allé dans les zones d'intervention du CICR, notamment à Diffa et Agadez, pour évaluer les besoins humanitaires avant de faire une annonce de l'ouverture prochaine d'un bureau de sa structure à Tillaberi, sur la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdelrazak Idrissa.
C'est la principale annonce de cette visite de Peter Maurer au Niger. Un bureau CICR sera bientôt ouvert à Tillaberi sur la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali.
C'est une région qui appartient à nos grandes préoccupations, il est clair. Hein. J'étais du côté Mali, j'ai vu un peu l'autre face de la médaille. Puis il va sans doute que c'est une des régions qui aujourd'hui, point de vue sécuritaire, point de vue sécurité pour les populations, point de vue sécurité pour les travailleurs humanitaires, représente un défi énorme sur laquelle, avec l'ouverture d'un bureau à Tillaberi, on veut connaître davantage et agir davantage.
Le patron du Comité international de la Croix-Rouge est allé aussi à Agadez et à Diffa pour évaluer les besoins humanitaires. Peter Maurer a promis d'être le porte-parole de la région du Sahel auprès de la communauté internationale pour une assistance accrue. Abdulrazak Idrissa, à Niamey. pour VOA Afrique.
Au Zimbabwe, 3 personnes ont été tuées dans des violentes manifestations qui traversent le pays depuis hier. Les manifestants protestent contre le doublement du prix des carburants dans un pays en proie depuis des mois à une grave crise économique. La porte-parole de la police a précisé que parmi les victimes figure un policier qui a été lapidé à mort à Bulawayo. Le ministre de la Sécurité a indiqué qu'au moins 200 personnes ont été arrêtées. Mardi, la situation restait extrêmement tendu au Zimbabwe au deuxième jour d'une grève générale à l'initiative de la Confédération syndicale du Zimbabwe.
En Afrique du Sud, une institutrice au cœur d'une polémique soulevée par une photo jugée raciste réagit. Elle conteste sa suspension après la diffusion d'une photo où ses élèves noirs et blancs étaient séparés. Elle assure que les enfants étaient regroupés selon leur langue d'origine et non selon la couleur de leur peau.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les députés britanniques se prononçaient ce soir sur l'accord de divorce conclu avec l'Union européenne par la première ministre Theresa May. Le vote se déroulait à partir de 19h GMT. On fait le point avec Nani Talani.
C'est un vote historique qui devrait marquer un rejet cinglant du texte, aggravant l'incertitude sur l'avenir du Royaume-Uni. Le vote est attendu ce soir après l'examen de 4 amendements qui demandent des modifications de l'accord. Nul ne s'attend à ce que les députés adoptent le texte et l'inconnu est plutôt l'ampleur de la marge avec laquelle Theresa May va perdre ce vote et qui influera sur la suite. Démission de la première ministre, report du Brexit, voire pas de Brexit. Tous les scénarios restent possibles. Le ministre chargé de conseiller juridiquement le gouvernement, Geoffrey Cox, a mis en garde les députés contre les dangers d'un divorce sans accord. Même son de cloche du côté de la puissante Association des constructeurs et des vendeurs automobiles, qui, elle, a mis aussi en garde contre les conséquences catastrophiques d'une sortie sans accord. La tension était palpable dans les milieux financiers, prêts à faire face à une forte volatilité des actifs britanniques, livre sterling en tête. Le Royaume-Uni doit en principe quitter l'Union européenne le 29 mars prochain.
Et justement, l'accord sur le Brexit vient d'être rejeté par le Parlement britannique et le Parti travailliste demande maintenant un vote de non-confiance contre la Première ministre Theresa May, un vote qui pourrait intervenir mercredi.
Et en Europe toujours, en Espagne, 17 personnes ont été arrêtées ce mardi à Barcelone et dans une ville proche contre une cellule soupçonnée de vouloir commettre un attentat. C'est d'après les autorités catalanes.
Au Yémen, la récente l'escalade des violences à Hodeida a permis pour la première fois en 6 mois aux Nations Unies d'envoyer des vivres dans 2 zones situées dans le sud de la province, c'est ce qu'annonce le Programme alimentaire mondial.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré avoir évoqué avec son homologue américain Donald Trump l'établissement par Ankara d'une zone de sécurité en Syrie, séparant la frontière turque des territoires aux mains d'une milice kurde. Ce dispositif a été discuté dans un entretien téléphonique destiné à apaiser les tensions après que le président américain ait menacé de dévaster l'économie de la Turquie et si celle-ci attaquait les combattants kurdes en Syrie.
Et ici aux États-Unis, le candidat de Donald Trump au poste de ministre de la Justice, Bill Barr, a estimé que l'enquête russe n'était pas une chasse aux sorcières, comme le dit souvent le président des États-Unis.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. En magazine ce soir, nous partons au Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba est de retour dans son pays. Il a aussitôt reçu le serment de son nouveau gouvernement ce matin à Libreville. Mais l'événement interdit n'a pas été retransmis en direct par les chaînes publiques, ce qui alimente davantage les débats sur l'état de santé du président au sein de l'opinion publique. Le reportage à Libreville de notre correspondant Ismaël Obiangze.
Affaibli et se relevant de plusieurs semaines de maladie, Ali Bongo Ondimba retrouve son gouvernement et ses institutions debout dans l'une des pièces retenues pour abriter l'audience solennelle de prestation de serment du nouveau cabinet Julien Kerbekale. Image interdite aux paparazzi, sait-on jamais, et à plusieurs médias nationaux et internationaux, par rassurant pour une certaine opinion déjà dubitative sur le retour du président à Libreville, car comme de tradition, l'événement n'a pas été retransmis en direct par les chaînes publiques.
Je ne l'ai pas vu.
Vraiment,
pas du tout. Je ne sais pas s'il est là ou pas.
Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien à dire.
En fait, moi, personnellement, j'ai cru entendre qu'il rentrait à 1h du matin. Et finalement, jusque-là, je n'ai pas de nouvelles, quoi. Et depuis son absence, on est là, on attend son retour.
D'autres citoyens semblent bien moins intéressés par la nouvelle du jour qui s'invite dans tous les milieux de Libreville. C'est le cas de Prisca, technicien de surface dans un cabinet d'études d'avocat.
Moi, je ne sais pas qu'il est là. En tout cas, ça ne me dit rien. Ça ne m'intéresse pas. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ce n'est pas mon problème.
Le retour d'Ali Bongo Ondimba est considéré par Anna Berki, journaliste, comme une nécessité pour restaurer l'autorité de l'État au Gabon.
Ça augure d'une certaine stabilité parce que le pays en a bien besoin. Et d'ailleurs, économiquement, je crois que pour nos investisseurs, il est important d'avoir dans une barque un commandant qui sache donner le cap et continuer bien sûr à conduire donc celle-ci à bon port.
Le rituel de prestation de serment du nouveau gouvernement gabonais n'a plus été suivi du tout premier conseil des ministres de l'année comme prévu. Le rendez-vous convoqué par le numéro 1 gabonais est repoussé à une date ultérieure selon les sources proches du dossier. Libreville, Ismaël Obianzé pour la Voix de l'Amérique.
Et du Gabon, on se rend en République démocratique du Congo où la Cour constitutionnelle a commencé ce matin à examiner le recours de Martin Fayulu qui demande une invalidation des résultats de l'élection présidentielle proclamant Félix Tshisekedi vainqueur. Idriss Fall a recueilli la réaction du docteur Denis Kimwanana Peya. Il est représentant de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi en Afrique du Sud.
C'est le peuple congolais qui a voté. Et c'est le peuple congolais qui ne se plaint pas. C'est dans 26 provinces, vous ne voyez pas de protestation. Vous apprécierez notre attitude comme Congolais dans une démarche ou une dictature depuis l'indépendance à nos jours. C'est la première fois pour l'Afrique de voir une dictature qui fait une passation pacifique du pouvoir à une opposition qui a 37 ans d'années. Nous sommes les vainqueurs. Et que la plainte de Lamuka de Fayulu, c'est en soi une distraction. Toute la lutte de Lamuka, c'était la lutte contre la machine à voter. Et deux, pas de projet de gouvernement. De plus, pas de témoins électoraux, pas de procès-verbaux. Et lui-même, Fayulu, s'est enregistré sur toute l'étendue de la RDC au nom de Lamuka, avec Mbemba Tumbi. Mais lorsqu'il va à la Cour constitutionnelle, le samedi, vous l'avez suivi, il se présente au nom d'une dynamique qui n'a pas été reconnue par la CENI. Il s'appuie sur l'Église catholique, la CENCO. C'est une simple organisation de l'Église catholique, membre de la société civile.
La CENCO dit avoir déployé quelque chose comme 40 000 observateurs.
C'est encore une erreur, puisqu'au niveau, il y a une contradiction là-dessus avec les données de la CENCO et de la CENI. La CENI parle de 17 000 sur toutes les temps. La CENCO parle de 40, 12 000 c'est 40, ils ont été enregistrés où? C'est que nous disons à Fayulu, à Mbemba et à Katumbi, de se taire. Ils n'ont pas de leçon à donner à la démocratie au peuple congolais. Ils ont servi Mobutu, ils ont servi Kabila, ils ont pillé le pays, ils ont vendu l'uranium. Ils se sont enrichis. Maintenant que le peuple congolais a voté et avec fierté un opposant, l'Afrique australe a dit qu'il faut un gouvernement, il faut faire le recomptage. Mais nous ne nous opposons pas. Le recomptage signifie que quelqu'un a saisi la Cour constitutionnelle de la RDC. Or, à la date d'aujourd'hui, Idriss appelle la Cour constitutionnelle. Fayulu n'a introduit aucun document, aucune évidence. Pas de preuves, pas de procès-verbaux. Et la CENCO elle-même ne lui donne pas de documents. Donc il faut que nous allions à la prestation de serment de Félix Tshisekedi le 22 janvier 2019.
Voilà, c'était Denis Kimwanana Peya de l'UDPS.
C'est la fin de cette édition spéciale sur la Côte d'Ivoire. À la mise en onde, Cheikh Thiro, à la présentation, Morgan Guiriek et Abdourahmane Dia.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Bien.
bienvenue à bord.